Alors ce matin, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu. On est dans la série Suivre Jésus en disciple. Tout doucement, on est au bout, hein, David, de ce qu'on voulait vous partager. Aujourd'hui, ça va être un sujet concret. Peut-être que les Français n'aiment pas trop en parler. C'est la question de gérer l'argent. Vous voulez dire, est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que... Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur l'argent? C'est quelque chose de personnel. Je voudrais débuter avec cette illustration. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une vue aérienne d'une déchetterie. J'ai déjà utilisé une fois cette image, hein, cette illustration. Ce lieu où il y a une file de voitures le week-end, de camions, de voitures avec sa remorque chargée de bibelots en tout genre, de meubles, d'électroménagers, de jouets, de déchets verts. Parfois des matériaux de construction en vrac, et on décharge tout ça dans des bennes. Alors aujourd'hui, on est à l'heure du tri, alors chaque déchet rejoint sa benne, alors c'est parfois compliqué de savoir où les choses vont. Mais tôt ou tard, tout ce que nous possédons finit dans une benne, on pourrait dire. Les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, la voiture, le vélo et tous les autres bibelots. Les meubles, je vous ai parlé un jour de mon canapé, les meubles qu'on a du mal à choisir finiront un jour dans une benne. Vos vêtements. Et même les nouvelles fenêtres que peut-être vous avez posées, que vous allez poser cet été. Et pour certains de ces biens, on a eu des années de labeur, de travail, de sacrifice, pas toujours épanouissant. On a fait des économies. Parfois, pour certains de ces objets, des enfants se sont querellés, des amitiés ont été brisées, on a joué un peu sur l'honnêteté. Des mariages ont été éprouvés pour la question des biens. Les héritages, c'est toujours source de tension. Mais tôt ou tard, tous ces biens finissent dans une déchetterie. C'est vrai, dans une société qui encourage, hein, qui fonctionne comme ça, encourage à consommer, à acheter, à dépenser, même à crédit. À accumuler le plus de biens possible. Parfois, on est encouragé à placer notre argent pour pouvoir envisager un projet plus grand, un achat plus grand, ou pour envisager votre retraite. Hein, ça c'est le sujet d'actualité. Aujourd'hui, on est aussi, c'est le contraste, hein, on voit aussi que ces derniers siècles, enfin même pas dernier siècle, mais on pourrait dire le dernier siècle de consommation du plastique et tout ça, on a vu les effets néfastes de cette surexploitation. Alors aujourd'hui, on nous encourage au réemploi, à la réparation. Il y a même maintenant une prime pour réparer votre machine à laver. Il y a la question du seconde main, il y a le recyclage, il y a la question du partage, il y a la question de la sobriété. Voilà, c'est des termes qu'on entend, le don de soi. Certains parlent même de décroissance, on devrait vivre avec moins. En tout cas pour nous, société occidentale. Et c'est vrai que c'est tout ce sujet-là d'intro est un peu lié à la question de l'argent, en tout cas dans notre monde occidental. Et le texte que j'aimerais prendre avec vous se trouve dans une lettre que Paul a écrite à Timothée. C'est la fin de sa première lettre. Et en fait, Paul va dire à Timothée, prends garde à des faux enseignants qui disent que ben, si on vit avec le Seigneur, ben, il y a une vie fructueuse et notamment aussi de biens qui doivent être présents. Ta piété, elle est liée aussi à cet argent et à ces biens que tu t'amasses. Paul va dire non, ne suis pas de tel enseignant et il va nous donner à ce sujet-là du coup. Plusieurs principes que nous pouvons aujourd'hui se dire bah, comment je dois voir l'argent dans ma vie. Je vais pas l'afficher le texte, je vous encourage à prendre vos Bibles sous vos yeux et je vais lire donc 1 Timothée 6 à partir du verset 6. Donc il répond à ces faux enseignants. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, Il tombe dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'un homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Alors je vous rassure, je vais pas prendre tout ce passage qui est long. Je vais prendre il y a deux portions et vous verrez que de toute façon en plus le centre alimente les deux portions. Il y a une première partie du verset 6 à 10 et puis du verset 17 à 19. Mes deux portions, mais je voudrais vous relever huit principes. Huit points pour nous ce matin. Et le premier point qui apparaît assez clairement dans ce premier verset 6, l'argent n'apporte pas le contentement. Paul répond à ces faux docteurs qui supposent que la piété est un moyen de gagner plus d'argent. Et Paul dit, oui, notre piété est une source de profit, mais pas dans le sens dont on l'entend. Notre piété, notre vie de disciple, on est dans le sujet du disciple, et notre profession de foi est une grande source de profit. Mais le vrai bonheur n'est pas dans l'argent. Le vrai bonheur est dans la personne de Jésus-Christ, dans notre relation à Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, et non pas dans ces richesses qui pourraient être tenues entre nos mains. Et pour certains, elles sont nombreuses, ces richesses. Et il y a ce mot « contentement ». Le contentement vient de cette sérénité intérieure, vient de cette relation vivante avec Dieu, de cette paix qui dépasse les circonstances. On parle du Dieu souverain, du Dieu qui apaise, du Dieu qui est un rocher. Quelles que soient les circonstances, elle est là notre contentement, elle est là notre place. Une personne qui va compter sur les choses matérielles que peuvent offrir l'argent pour obtenir la sécurité, la paix, le bonheur, ne sera jamais satisfait. C'est ce que dit Paul. Le vrai contentement se trouve dans la piété, dans la marche avec le Seigneur. C'est ce que dit Ecclésiaste, hein, je cite juste un verset, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » L'argent ne nous rassasie pas, l'argent ne nous donne pas le contentement. Tout ce que promet l'argent ne peut pas nous contenter. Alors c'est vrai, avec l'argent, on peut obtenir pas mal de choses. En tout cas, ça le promet. On n'aime pas l'argent pour le bout de papier, pour le gros chiffre sur notre compte en banque, pour la beauté d'une pièce. Alors je sais, il y a des collectionneurs, mais on aime l'argent pour ce que ça promet. Raphaël Charrier, mon collègue, dit ceci, quand on parle d'argent, on parle de nos désirs. On parle de nos besoins, on parle de nos plaisirs, on parle de notre indépendance financière, on parle de notre sécurité, de notre contrôle, on parle de nos priorités, on parle de nos valeurs, on parle de notre façon de voir le monde. Là où on investit notre argent, ça dévoile ce qui est important pour nous. Et on a tous, et je crois, on a tous un problème avec l'argent. Quand on est riche, on en veut encore plus. Quand on a ce qu'il faut, on aimerait encore aussi en avoir plus. Et quand on en manque, On se dit, si seulement j'en avais plus. Alors, je le dis tout de suite, hein, mais la Bible ne fait ni l'éloge de la pauvreté, ni l'éloge de la richesse. Mais là, on le voit, elle fait l'éloge du contentement. Elle fait de là où est notre cœur, de là où, sur quoi on s'enracine. Elle met en lumière notre attachement. À quoi nous sommes attachés ? À l'argent qui nous promet des biens, qui nous promettrait un bonheur. Le disciple du Seigneur s'attache à Dieu et c'est ce qu'on a vu dans toute cette série. En tant que chrétien, on tire notre satisfaction de Dieu. Et Paul l'exprime comme ça, dans cette, on le connaît ce texte de Philippiens 4, 11, 13, hein, qui est derrière moi. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ. Mes amis, Paul ici encourage Timothée à se dire, votre contentement, votre joie, votre bonheur se trouve non pas dans ce que l'argent peut promettre, mais dans votre relation à Dieu, dans la suffisance de Dieu, dans la vie avec Christ. Aucune somme d'argent ne pourra remporter cela. Et on le sait, et c'est pour cela aussi que Paul le rappelle. L'argent n'apporte pas le contentement. Si on poursuit, on le voit, verset 7, l'argent ne dure pas. Alors Paul rappelle un principe que l'on sait, mais qu'on oublie. On est venu nu et on repart nu. Quand nous mourrons, nous n'emporterons rien. Aucun des biens, aucune des sommes d'argent que nous aurons récoltées durant la vie ici-bas. Toute richesse qu'on aura, au meilleur des cas, à amasser, ira à nos héritiers, à des œuvres charitables, une belle partie à notre État, en tout cas chez nous en France, mais aussi pas mal de choses iront à la déchetterie. Je ne sais pas si... Alors, moi j'ai eu déjà le privilège de enfin, je ne sais pas si c'est un privilège, mais de vider l'appartement des grands-parents. Et quand on voit certains meubles, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Personne n'en veut. Même même en donnant de l'argent, personne ne le veut. Et ça finit où ? Dans une benne, et souvent dans plusieurs bennes. Beaucoup de choses vont directement dans la déchetterie. Nous laisserons tout. C'est ce que Paul rappelle ici. Aucun de nous aura un camion déménagement derrière soi. Les Égyptiens, ils ont cru en mettant dans les tombeaux plein de choses, qu'ils allaient emmener ça dans la vie éternelle, mais nous laissons tout. Nous laissons tout. Mes beaux efforts à réussir dans mon travail, à chercher à capitaliser dans ma maison, dans mon job, dans ma famille, dans mes loisirs, dans ma maison, tout cela va rester ici. Et l'Ecclésiaste dit, c'est du vent. C'est vrai qu'on s'emploie notre vie ici-bas à se procurer ce qui est limité par le temps. C'est pour cela que Paul nous encourage à voir où sont nos vraies valeurs. Jésus le dira clairement, de façon encore plus claire, dans Matthieu 6. Hein, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus dit la même chose. « Aucun de ces biens ne durera, n'est éternel. » Aucune valeur. Alors c'est vrai, le fait d'être peut-être subjugué par des biens temporels, on passe peut-être à côté de richesses bien plus précieuses. Paul poursuit, l'argent ne dure pas, mais il dit que l'argent complique même la vie. Plus une personne possède d'argent et de biens, plus sa vie sera compliquée. Et c'est vrai, plus on a à gérer de choses, plus il y a des casse-têtes. Et en fait, ces versets nous indiquent même plus précisément que, je vais juste le relire, hein, le verset 8. « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Nous suffira. En fait, ce verset nous indique que si les besoins fondamentaux de nourriture, de se vêtir, là on a la question de l'habit, du toit, devrait nous suffire en tant que disciples du Seigneur. Devrait nous suffire. Alors Paul n'est pas en train de condamner tous les autres biens en plus, mais il est en train de nous montrer que si Dieu a pourvu à cela, nous avons tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de faire vœu de pauvreté, mais en fait, Paul nous dit, ce désir d'amasser plus va qu'engendrer insatisfaction. Et on l'a vu et on l'a réentendu tout au long de cette série sur le disciple du Seigneur. Notre objectif, c'est d'aimer de plus en plus le Seigneur, de le glorifier et de nous attendre à lui, de placer en lui notre confiance. Alors c'est vrai, parfois Dieu, dans sa grâce, va nous bénir par des richesses. Mais dans le même cas, parfois nous devrons nous attendre à Dieu pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais dans tous les cas, le Seigneur souhaite à ce que nos cœurs l'aiment en premier et le glorifient. Et notre société, on le sait, nous dit que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cela, vous n'allez pas être heureux. Si vous n'avez pas votre propre maison, si vous n'avez pas votre propre voiture, ou la voiture au dernier cri, vous serez heureux et vous passerez à côté de l'essentiel de la vie, et la Bible dit tout l'inverse. Si vous avez de quoi vous nourrir et de vous vêtir, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre avec le Seigneur. On connaît le prix de chaque chose, mais pas sa valeur. Est-ce que c'est une valeur éternelle ? On est saturé de luxe inutile que nous ne savons plus voir ce qui est essentiel dans nos vies. On a 43 paires de chaussures et je pense que 42 sont inutiles. Et Paul va encore plus loin. L'argent complique la vie. Mais j'avais un texte, Matthieu 6, hein. « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Donc là, Jésus rappelle la même chose que Paul. « Ne vous inquiétez pas du reste. Mangez. » Vous vêtir, voilà le plus important. Et d'ailleurs, pour ces éléments, ne vous inquiétez pas, parce que quelques versets plus loin, il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Vous voyez le même raisonnement. Le manger, le boire, c'est ce que vous avez besoin. Tout le reste est inutile. Vos besoins essentiels sont satisfaits. Et Paul, dans un quatrième point, va montrer que l'amour de l'argent même rend captif du péché. Et ça, c'est les versets 9 à 10. Il y a tous les effets négatifs. Il y a vraiment l'insatisfaction et cette insatisfaction qui grandit. Paul parle de ceux qui veulent s'enrichir, qui ont un attrait pour l'argent et d'amasser des biens. Ceux qui cherchent à avoir toujours plus vont connaître en fait l'esclavage et non pas la liberté. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, on vient de l'entendre. Alors l'argent en lui-même est neutre, mais notre rapport à l'argent peut être bon ou mauvais. Au lieu d'apporter satisfaction, elle crée des désirs et des ambitions encore supplémentaires. Et les termes de ce passage sont clairs. Il est question de ruine, il est question de piège. Il est question de perte, il est question de maux, il est question d'égarement, de tourment. On a un peu l'image d'un homme qui se noie. On est captif de l'amour de posséder, une passion dévorante qui nous fait perdre le bon sens. Mes amis, la Bible n'arrête pas du début à la fin de nous mettre en garde contre nos attachements. Et nous montre qu'un faux attachement tel que l'argent va nous conduire à des dégâts toujours plus loin et vont nous entraîner loin. Et vont nous entraîner à l'opposé de la satisfaction, du bonheur, du contentement que nous pouvons avoir en Dieu. Et il est même question d'une ruine spirituelle d'une personne. Ça nous met en garde en tant que disciples du Seigneur de se dire « Il est où mon attachement ?» Et on le sait, hein, dans la Bible, il y a quantité de personnes qui sont tombées de façon terrible à cause de l'attrait de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. Rappelez-vous de Achan, de l'époque de Josué, quand ils devaient raser tout et donner tout à Dieu. Bah quand il s'est dit, ouah, le beau vêtement, c'est bien précieux qui brille, non mais c'est trop dommage, je vais garder pour moi. Et ça a causé sa perte. Judas, pour de l'argent, va trahir Jésus. Simon, le magicien, vous savez, celui qui a vu les disciples faire des miracles, s'est dit, est-ce que je peux l'acheter? Il voyait déjà une affaire qui va être florissante. Paul ne condamne pas l'argent, mais Paul condamne l'amour de l'argent. Ce genre d'amour qui va pousser à nous faire des folies, à faire des entorses à la justice, à profiter du pauvre, à mentir, à tricher, à voler, à tuer, et on le voit, à vivre pour sa propre poire, comme on dit, ou sa propre pomme. Voilà ce que fait l'argent. Et on le voit, les dégâts dans ce monde, c'est l'attrait de l'argent et de posséder à titre personnel plus. Ce que je trouve dans ce texte, c'est que d'un coup, Paul va équilibrer les choses, parce que là, il y a la question du contentement avec peu de choses, et on pourrait se dire, mais en fait, il vaut mieux rien avoir, il vaut mieux avoir justement de quoi se nourrir et se vêtir. Mais Paul, dans la deuxième partie, va nous voir des recommandations pour celui justement qui est riche, celui qui possède. Et gloire à Dieu, on fait partie de ces riches qui possèdent bien plus que de quoi se nourrir et se vêtir. Et je pense que Paul ici s'adresse à nous qui sommes riches. La manière dont en tant que chrétien on se comporte avec nos biens va nous montrer aussi notre attachement et notre piété à Christ. On a la responsabilité de gérer ce que Dieu nous confie et c'est ce que Paul va développer des versets 10, 17 à suivant. Il nous encourage à bien gérer, à bien administrer. Avoir une juste perspective de la gestion de nos richesses. Et le premier point que je soulignerai au verset 17, c'est que notre argent n'est pas notre argent. Là, il est question, aux riches de ce monde ordonnent de ne pas être orgueilleux. Et c'est un des problèmes qui est fondamental avec les biens et l'argent que l'on possède. Parce que nous croyons que notre argent est notre argent, que nous avons gagné à la sueur de notre front. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est un des principes que le Seigneur souhaite nous voir garder en tête. C'est de comprendre que ton argent n'est pas ton argent. Il appartient à Dieu seul. Mais Dieu t'en confie la gestion. Simplement deux versets. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume, le monde, où c'est Dieu qui parle, le monde est à moi et avec tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'il contient, pardon. En Agée 2, verset 8, Dieu dit « L'argent m'appartient, là il est clair, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » En tant que disciples du Seigneur, nous devons nous rappeler ça. Dieu possède tout. Dieu possède tout. Mon argent n'est pas mon argent. Et c'est vrai, on a tous cette expression, j'ai gagné ce que j'ai gagné. J'ai mérité ce que j'ai. Je ne dois rien à personne. Je l'ai obtenu et j'en fais un peu ce que j'en veux de ce que j'ai reçu. Bien évidemment, on travaille dur pour acquérir un salaire, mais tout, et c'est la parole de Dieu qui nous encourage, tout est un don de Dieu, un cadeau qu'il nous donne. Nous ne sommes pas des propriétaires. On est dans une société qui veut nous encourager à être des propriétaires, mais nous ne sommes pas des propriétaires, on n'est que des intendants. Si nous avons des richesses, c'est par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, et parce qu'il nous permet d'en bénéficier, et ça lui appartient. Tout ce que tu as. Et c'est une clé. Je pense qu'on devrait retenir, c'est pour ça que je l'ai mis un peu en gras. Notre argent n'est pas notre argent. Dieu possède tout et je reste un simple gestionnaire de ses biens. Et cela devrait nous aider à avoir beaucoup d'humilité avec ces biens que nous avons de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, et on l'a entendu dans les versets qu'on l'a entendu, on peut être riche ici-bas, mais pauvres dans le siècle futur. Et on le voit aussi, un chrétien peut être riche ici-bas et dans l'éternité être aussi riche. Il y a la question du texte, amassez-vous des trésors dans le ciel. Dieu n'est pas contre les richesses, mais il veut nous changer de perspective. Sixième point, notre espérance en Dieu et non pas dans l'argent. Ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit, mais si tu veux être libre par rapport à l'argent, tu dois les soumettre à Dieu. Notre monde nous fait croire qu'on veut mettre notre espérance. Votre avenir, il réside dans ce que vous pouvez accumuler et ça va vous assurer un avenir. La Bible dit tout le contraire et on l'a entendu, on l'a chanté, on l'a rappelé avec la scène. Notre avenir, notre salut, notre espérance, il est en Christ et non pas dans ce que le Seigneur me donne d'avoir et de posséder. Les voleurs peuvent dérober, les investissements peuvent s'évaluer, les ravages du temps, et on le voit, parfois on investit dans des biens, une tempête peut tout laisser de côté. Si Dieu nous accorde la richesse, nous devons placer notre espérance en lui, le donateur, et non dans ses dons. Et parfois, quand on écoute la manière dont on vit notre foi, notre accent est souvent sur tout ce qu'on reçoit de Dieu. Même dans notre piété, souvent on met l'accent « Ah, je suis béni ». Enfin, on pense plutôt à ce qu'on reçoit de Dieu que de voir ce que Dieu est. Elle est où notre valeur ? On attend de Dieu des choses, y compris là, il est question des richesses, mais il y a plein d'autres aspects où on attend d'être rempli de Dieu, alors que notre contentement, il est en Dieu. Où est notre cœur ? Ce que je trouve encourageant, c'est que le septième point, Paul nous dit « Jouis de ce que Dieu te donne ». Il y a de la reconnaissance, il y a de la joie. Jouissions, c'est un mot qui est fort. Hein. Il y a la question du plaisir, il y a la question de la joie, de la reconnaissance. D'ailleurs, c'est un des thèmes qui parcourt l'Ecclésiaste. Hein. « Jouis des bénédictions de la vie maintenant, car la vie s'arrêtera un jour ». Mais on n'est pas là dans une, et c'est pour ça que tout se complète, hein, on n'est pas dans une jouissance égocentrique, personnelle. Mais il y a toute cette question, et là, on ouvre tout un chapitre de la reconnaissance. Est-ce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu place entre nos mains? Se réjouir. Et se réjouir, c'est glorifier Dieu, en fait. C'est de dire aussi, ben, merci Seigneur pour ce que tu m'accordes. Merci pour ces biens que j'ai et dont je suis un gestionnaire. Faire de Dieu notre trésor et ne pas faire de nos attachements nos trésors. Et enfin, un dernier principe qu'on pourrait développer énormément, c'est question de faire bon usage, bon gestionnaire de ce que Dieu nous donne. Versets 18 et 19, je relis, comme ça on l'a en tête. Ordonne-leur, hein, donc aux riches, hein, c'est Paul qui dit à Timothée, ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belle œuvre, de se montrer généreux, prêt à partager. Là, il y a la question, voilà, faire bon usage. Le croyant fortuné que nous sommes a la responsabilité d'employer ses ressources pour les autres. Il y a toute la question pour les autres. Faire du bien, être riche en bonnes œuvres, se montrer généreux, c'est toute la question de la libéralité, prêt à partager. Paul nous encourage à faire un bon usage du meilleur qui soit dans ce que Dieu nous accorde pour les autres et de ne pas le gaspiller. Un billet qu'on va dépenser pour un achat particulier est un billet qu'on ne va pas pouvoir dépenser ailleurs. Alors on doit réfléchir à la manière dont on dépense ce billet. C'est toute la question du gaspillage, là, du gaspillage d'argent. Nous pouvons utiliser nos biens, et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage, à faire du bien aux autres. On peut partager. Pour bénir les autres. Et dans cette question-là, il est question, je parlais de libéralité, il est la question aussi de ce qu'on met à part pour Dieu. Il y a toute la question de l'offrande. Parce que tout ce que tu reçois, tu le reçois de Dieu. Et Dieu, d'ailleurs, dans sa Bible, nous appelle de ce que nous recevons de Dieu, d'ailleurs, d'en donner aux autres, d'en faire bénéficier les autres, mais de donner aussi à Dieu. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre comme pédagogie. Mais Dieu veut nous montrer qu'en fait... ce que je reçois, je le redonne parce que c'est à lui et c'est pédagogique. Et dans l'Ancien Testament, il est question de la dîme. Alors on entend parfois 10%, mais si on fait les vrais calculs, on est plus proche des 25% de ce qu'on devait donner. Alors vous imaginez, faites le calcul de votre salaire, 25%. Et en plus, la Bible encourage aussi aux libéralités lorsque le cœur était saisi. Lorsque vous vous rappelez, dans plusieurs épisodes dans la vie du peuple d'Israël, il devait donner généreusement pour la construction du temple. Ça, c'était encore en plus. encore plus des 25%. Par exemple, on peut écouter peut-être un missionnaire qui va nous partager quelque chose et d'un coup, vous sentez saisi par Dieu de vous dire, là, je peux encore donner une part de ce que Dieu me donne pour cette œuvre. Et là, c'est encore supplémentaire. On n'est pas du tout dans le calcul. Parce qu'en fait, on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien sûr, ça c'est l'Ancien Testament, mais il y a un verset dans le Nouveau Testament, je vous le cite. Hein. Oui, tout nous vient de toi. Donc on est là, on est dans la même chose, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On est là dans cette question de la liberté. Dans le Nouveau Testament, vous allez vous dire, il n'y a plus la question des impôts, des règles, des 10%, plus ça, bien évidemment. Mais quand on lit, d'ailleurs, le début de l'Église, on les voit généreux. C'est la question de la générosité. C'est le même principe. Paul y dit aux Corinthiens que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous en ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué, donc Dieu a distribué ses bienfaits et il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Le principe qui est important, c'est pas le montant qui est important des biens qu'on a, mais c'est de se dire, mais quelle est mon attitude avec cela? Est-ce que je suis un bon gestionnaire? Et est-ce que je donne? Est-ce que je donne la part que Dieu m'appelle à donner? Faire bon usage de ce que Dieu nous donne. Et c'est un aspect qu'on devrait interroger. Est-ce que nous sommes généreux? Est-ce que nous sommes généreux? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes reconnus pour notre libéralité? Et donner, je pense que c'est une bonne antidote au matérialisme, à l'inverse de l'accumuler pour soi. Notre générosité, et l'Écriture le dit, envers les autres, est à l'image de la générosité de Dieu à notre égard. Christ s'est dépouillé de tout pour nous enrichir. Pour nous offrir le salut. Et là, c'est l'Évangile, simplement. Quel cadeau merveilleux. L'Évangile, c'est pour ça la vie de disciple. L'Évangile qui un jour nous a saisis, ça change tout. Et ça change notre rapport à l'argent. Parce que ça change nos attachements. Ça change notre espérance. Ça change notre manière de vivre, notre reconnaissance, la manière de partager, de faire du bien à l'autre. Quel cadeau merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film La Liste de Schindler. Donc c'est ce riche entrepreneur qui a mis ses biens pour cacher des juifs. À la fin de l'épisode, il se dit « Si jamais j'avais pu encore vendre ma voiture et ma montre pour en acheter, enfin pour en libérer d'autres. » Il y a cette question-là du don de soi, en fait. Que Dieu nous interroge, se dire « Mais qu'est-ce qu'on garde pour soi et qu'est-ce qu'on donne pour le royaume de Dieu et pour l'avancée de son règne ?» Alors, on se pose la question, est-ce qu'il est légitime de garder une certaine somme pour nos plaisirs, pour nos loisirs? On est dans une société de loisirs et ça nous interroge. Je pense que la majorité de notre planète ne se pose pas cette question-là. Bien sûr, Dieu nous en donne pour que nous en jouissions. Je vous rappelais, Dieu nous aime et est un père, il prend soin de nous, il nous donne des cadeaux, il veut nous en voir, les savourer. Parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on l'adore, parce qu'on lui rend gloire. Oui, profitons de la vie, profitons des biens que Dieu nous donne, mais laissons-nous guider par Dieu et non par l'argent. En Christ, on est libre. Il n'y a plus de règles. Mais tu dois sonder ton cœur. Et c'est ça dans notre vie de disciple. On doit sonder notre cœur de là où sont nos attachements, de là où on place notre amour. On est responsable, on est des gestionnaires. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que je me pose actuellement toujours avec mon canapé. Enfin, c'est juste une illustration, mais nous sommes responsables de demander à Dieu du discernement. Demandez-moi de la sagesse et je vous en donnerai. Seigneur, montre-moi les vrais raisonnements qui sont derrière, les motivations dans tel ou tel achat, dans tel ou tel choix de vie. Est-ce que dans notre prière, on peut être reconnaissant de la paire de baskets qu'on vient d'acheter cette semaine? Est-ce que je peux être reconnaissant de cette dépense? Ou est-ce que tu te dis, j'aurais peut-être mieux valu le donner, le partager à cette sœur qui part en mission. Peut-être t'as pas de conviction sur tes dépenses, alors peut-être place de toi devant Dieu, avec patience, à prier, à demander peut-être conseil aux autres autour de toi. Et mes amis, la parole de Dieu parle d'argent, mais énormément. Jésus parle de l'argent bien plus que d'autres choses. Donc je pense qu'on peut parler, en tant qu'enfant de Dieu, à nous encourager à réfléchir à la manière dont on vit les disciples. Ça ne devrait pas être tabou entre chrétiens. Et le verset 19 clôt tout cela, et je trouve beau, parce que d'ailleurs, il clôt, mais c'est toute la partie centrale de ce qu'on n'a pas, de ce que j'ai pas étudié avec vous, mais il y a la question du principe. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Mes amis, notre regard n'est pas sur l'argent, parce que notre regard maintenant, il est différent, il est sur l'espérance, sur la vie éternelle. Et c'est là que doit être notre regard. Et c'est comme ça que j'aimerais simplement nous introduire. Il est où notre regard ? Sur cette vie ici-bas ou sur l'éternité ? Et j'aimerais nous laisser cette illustration que j'ai déjà partagée avec vous, il me semble, de Randy Alcorn, qui résume notre vie comme un point et une ligne. Notre vie, il y a deux phases. L'une est le point et l'autre est la ligne qui part de ce point. Notre vie présente, notre vie sur Terre, c'est le point. Elle commence et se termine. Elle est brève, quoi qu'on dise. Notre vie ici-bas, mes amis, elle est brève, comme la fleur de l'herbe d'ailleurs. Dans la Bible, il y a plein d'expressions pour dire le côté éphémère, le côté rapide. Mais à partir de ce point, part une ligne vers l'infini, une ligne qui se finit pas. Il y a un début, mais elle se finit pas. Et là, c'est la question de l'éternité, et c'est comme ça que présente la parole de Dieu. Là où on passera notre place avec Dieu. Voilà la perspective de la Bible. Et aujourd'hui, on vit dans ce point. Et la Bible nous encourage pourquoi on vit. Pour ce point, pour l'argent, pour ces choses que le monde nous donne, ou est-ce qu'on vit pour l'éternité, pour cette résidence permanente dans le ciel ?